lutte. Bonjour à tous, salut, c'est Cal sur les ondes de votre chère radio décalée fréquence 7. C'est déjà le troisième épisode de Nos Santé Mentales en Lutte, alors installe-toi confortablement, prends ta boisson préférée et ton doudou à câliner. On va s'informer, on va se culturer et se réconforter avec les personnes concernées. Aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce que ça fait dans nos têtes, dans nos corps et dans nos luttes de vivre en communauté, d'habiter autrement. Et avec moi, j'ai la chance d'avoir une belle équipe composée des copaines Madou, salut. Bobby, salut.
Coucou.
Et Floki.
Salut.
Et donc, vous allez nous raconter votre vie à la clémenterie. Donc, vraiment, merci les cœurs d'être là aujourd'hui. Est-ce que vous voulez commencer à prendre la parole en nous parlant un peu de votre vie, de ce qui vous a amené chacun, chacune à vivre à la clém? Depuis combien de temps vous y êtes et qu'est-ce que vous faisiez avant?
La clémenterie, du coup, ça fait 17 ans que ça existe. Et du coup, c'était pas mal un lieu féministe à l'époque, avec beaucoup d'agriculture et de plantation sur le lieu, qui s'est courisé, si on peut dire, ces 4-5 dernières années, et où il y a toute une autogestion, des chantiers participatifs et plein de choses qui se passent sur ce lieu. Voilà. Et nous, on l'a découvert l'été d'avant.
Ouais, on est arrivés un peu, là, tous les trois en tout cas, en même temps, en...
octobre.
Il y a
deux ans.
Ouais. 2023. Et ça fait un an et demi qu'on y est. Et on cherchait un lieu où s'installer à la campagne, mais on ne savait pas exactement qu'est-ce qu'on allait trouver ou quoi. Et ça nous a un peu tombé dessus. Et on a eu quand même vachement de chance de rencontrer ce lieu.
Alors, il est où ce lieu? Racontez-nous un peu. Où est-ce qu'il est et comment est-ce que c'est?
Alors, bah, on est placé, on est à la souche, à côté de la souche, vraiment au fin fond de la montagne. Et qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un, je sais pas si on dit ça en Ardèche, mais un mas, un ensemble de maisons en pierre. Et voilà, on est au bout d'une toute petite route, presque à la limite de la Lozère.
Et vous aviez déjà vécu en communauté, séparément, avant la clém?
Pour beaucoup, on vient de Marseille. On est passé à Marseille. Moi, j'habitais avec quelqu'un qui habitait à la clém en squat à Marseille. Du coup, c'était une toute autre gestion collective, mais ouais, j'ai toujours quasiment habité en collectif.
Et c'était quoi ton expérience, Floki, du squat à Marseille?
Ça a été, j'ai fait plusieurs squats à Marseille, donc du coup avec plusieurs personnes, enfin pas du tout en mixité TPG quoi.
Donc transpédéguine,
oui.
Pour vous préciser.
Et ça s'est plutôt mal passé, très mal passé sur la fin. Beaucoup trop de personnes et c'est pour ça que moi je cherche un lieu à la campagne, beaucoup plus calme, où on y amène aussi la santé mentale, qui avait pas du tout à Marseille ni l'espace et que c'était vraiment la course tout le temps.
Et toi, Bobby?
Moi, j'ai pas eu. Enfin, je pense que j'ai eu des expériences de vie en collectif sur des plus petites périodes, mais jamais dans des trop trop collectifs. Je pense que j'ai vécu dans des colocs où on pouvait être jusqu'à une dizaine, ce qui était quand même une sacrée organisation, mais je pense pas qu'on se définissait comme un collectif à l'époque. Peut-être ça change aussi la perception de comment on vit la chose, quoi.
Oui, en fait, on a, je pense, un peu tous une... comment dire? On a tous un peu vécu l'autogestion ensemble. Après, on n'a pas tous la même expérience là-dedans. Enfin, moi, pareil, moi, j'ai pas vécu en squat, mais pareil, grosse coloc. Enfin, on a habité ensemble avec Bobby par le passé. Et c'était quand même des lieux où on s'organisait collectivement pour plein de choses, en fait. Enfin, des choses, je sais pas, des choses d'accueil de personnes... Des événements extérieurs, enfin on faisait des cantines et des choses comme ça. Il y a certains d'entre nous qui se sont rencontrés dans une cantine autogérée par exemple. Mais voilà, après ça, on n'a pas forcément. Enfin, moi j'ai jamais vécu en collectif avant par contre.
En général, je raconte un peu mon vécu par rapport au thème aussi, parce que je vis pas en collectif, mais quand je suis arrivée en Ardèche, c'était très vite mon envie. Je me suis rapprochée de pas mal de groupes Facebook, tout ça, sur les éco-villages, sur, mais je voulais des lieux qui soient politisés, qui soient pas juste des éco-villages blancs, cis, voilà, et qui vécu d'autres oppressions. Donc du coup, rapidement, quand j'ai connu la Clem, j'ai trop voulu y aller juste pour un chantier, et puis après je vous ai rencontré, donc juste j'avais envie de vivre avec vous. Mais du coup c'est vrai que moi personnellement aussi dans la réalité concrète, vu que je vis avec une autre personne, une personne aussi qui est sur le trouble autistique, du coup qui a aussi des besoins qui sont particuliers. C'est vrai que voilà, il y a toute cette question aussi de comment est-ce qu'on gère les libertés individuelles quand on vit en collectif, comment est-ce qu'on gère l'espace, la peur que nos limites soient dépassées, comment en fait on a voilà besoin d'espace à soi et en même temps d'espace en commun. Moi, je sais que j'ai déjà vécu dans des colocs et j'aime ce mode de vie aussi où on a des lieux de vie en commun et on a un espace aussi à soi, mais voilà, c'est pas forcément facile si tu vis avec quelqu'un, du coup de l'imposer à l'autre personne. Donc comment est-ce que ça marche pour vous? Est-ce que genre vous êtes tous en mode copaine et coloc d'amis, ou est-ce qu'il y a aussi des couples qui peuvent débarquer des fois de manière provisoire? Comment est-ce que vous arrivez à gérer les espaces pour que chacun aussi voilà, trouve son endroit sans se sentir trop à l'étroit?
Je crois que déjà, nous, quand on a aménagé là, on avait hyper envie d'avoir chacun une notre espace perso. Et c'était un peu une de nos priorités. Enfin, on était un peu en mode, on a besoin de pouvoir avoir des moments où on est seul, etc. Et je pense que malgré le fait que le collectif, ça demande énormément d'énergie et de temps ensemble et dans les lieux ensemble, on essaye quand même de respecter le fait que on a nos espaces. D'ailleurs, on a un peu, c'est presque un peu, on va pas trop dans les espaces des autres. On a un truc très un peu poli par rapport à ça, de se laisser comme ça, cette liberté-là. Et après, oui, ça nous, on passe beaucoup de temps ensemble, en effet, à s'organiser, à manger, à rigoler aussi, ou pas.
Bah, j'ai l'impression que peut-être ce qui peut expliquer ça, c'est comment est composé le lieu, en fait. Que du coup, il y a comme deux maisons qui sont collectives, où on s'y retrouve, une maison plutôt calme et une maison là où on mange et où on fait des choses rigolotes. Et après, les espaces personnels sont plus répartis, déjà géographiquement, il y a les caravanes et tout ça qui sont plus loin. Et du coup, ça fait aussi qu'on peut couper avec le collectif, vraiment quand on en a besoin.
Et je me demandais un truc aussi, genre, bon, comme vous savez, mon rapport au monde, c'est un peu les livres. Et du coup, à chaque fois, pour chaque émission, je fais une sélection d'ouvrages avec les copaines de la Bibli queer et féministe, Les Lins, Les Lunes. Et là, pour cette émission, on avait beaucoup de livres qui étaient sur faire famille autrement, vivre en communauté. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal d'ouvrages qui parlaient aussi de nature et de queeristan. Et moi, il y a un docu que j'avais vu il y a pas très longtemps aux États généraux du documentaire à l'USAS, qui était Queering Nature. C'est un docu réalisé par Aline Magrez. Et ça m'a fait écho à un livre de la Bible, un livre pour enfants, qui montre comment les animaux font famille et vivent en communauté. Ça s'appelle Naître animal, les fascinants secrets de famille des animaux. Et je me disais, en fait, je trouve ça résolument naturel comme mode de vie, parce que l'être humain, il a besoin des uns et des unes pour survivre. Et dans la nature, quand tu regardes comment on fait nature et on fait communauté, c'est assez naturel de se rassembler pour survivre. Et est-ce que vous trouvez ça naturel dans ce monde où les constructions culturelles nous ont amenés à vivre plutôt en mode individualisme, propriété privée, tout ça? Comment est-ce que vous vous adaptez à ce mode de vie? Est-ce que finalement vous trouvez ça fluide, naturel, de vivre en commu, avec la commu?
Enfin, moi, je sais que j'aurais du mal à vivre toute seule et que j'aime vivre avec des gens. Et que même limite, si des fois, il y a des conflits ou des choses liées au fait que on est quand même beaucoup ensemble, je préfère quand même ça à vivre seule. Moi, personnellement, je vois pas le sens. Enfin, voilà. En fait, ce qui est un peu spécial à la Clem aussi, c'est que c'est pas que les habitants et les habitantes permanentes, c'est vraiment aussi les personnes qui viennent et qui visitent le lieu. Et donc, c'est vrai que ça, il y a un mouvement quand même assez fort, parce qu'il y a des périodes où on va être une quinzaine et des périodes où on est trois, quoi. Et du coup, il y a vraiment un truc de... Je trouve aussi de... Oui, il y a souvent des besoins de réadaptation à... là, il y a plein de gens, du coup, là, se réhabituer à ce qu'il y ait vraiment plein de gens dans la cuisine, qu'on est là et qu'on se marche un peu dessus pour choper une assiette et tout. Il faut attendre pour aller à la douche, etc. Et on se retrouve plus que trois. Et du coup, là, les espaces, d'un seul coup, deviennent hyper vastes. Et on se retrouve... De temps en temps, on se croise dans la journée. Enfin, c'est un peu... Et ça, oui, ça demande une réadaptation quand même. Enfin, il y a un truc que je trouve assez spécial aussi dans ce mode de vie, quoi.
Et alors ça, ces nouvelles personnes que vous faites rentrer lors des chantiers participatifs ou quoi, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça se passe? Tu disais, Floki, que depuis 4-5 ans, la Clem aussi s'est queerisée. Et voilà, c'est un peu le queeristan néo-paysan aujourd'hui et un lieu de refuge pour pas mal de gens de la commu. Est-ce que vous pouvez aussi parler de comment est-ce que vous organisez la mixité sur les chantiers participatifs? Comment est-ce que vous organisez aussi ces modes de partage, de sociabilité sur ces moments?
Déjà, avant, il y avait un peu une tradition à la Clem un peu sur l'organisation des chantiers participatifs, c'est qu'il y ait toujours une semaine qui soit faite en mixité choisie, sans mec cis hétérosexuel. En tout cas, ça, c'est la mixité qu'on utilise maintenant. Je ne sais pas si c'était la même à l'époque, parce que ça a pu bouger aussi, mais c'est comme ça qu'on organise nos semaines de chantier. Et en dehors des chantiers, on accueille aussi des personnes qu'on appelle des habitants temporaires pour 2 à 3 semaines dans des espaces qui ont des espaces personnels aussi. Et c'est des gens qui nous contactent souvent, soit par réseau d'amis, soit par mail, parce qu'on a un site internet et que les gens ils nous trouvent comme ça. Et des fois, ça marche très bien et des fois, c'est plus confrontant.
Ça fait beaucoup de trucs à organiser, tout ça, et l'autogestion, ça prend beaucoup de place aussi en termes de charge mentale. Comment est-ce que vous la partagez et comment est-ce que vous la vivez? Est-ce que c'est stressant? Est-ce que vous avez peur de manquer de sous pour les charges? Enfin, comment ça se passe aussi concrètement?
Je sais pas si ça va répondre vraiment à la question, mais je trouvais ça important de dire que au début, quand on arrivait, du coup, on était 10, on n'est plus que 7. Et je pense que la Clémenterie, déjà, elle regroupe plein d'individus qui sont extrêmement différents et qu'on est vraiment arrivé avec la question de la santé mentale en plus gros, quoi. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'on a amené. Et du coup, ça teinte un peu toutes nos relations parce qu'il y a un respect de chacun, chacune et de ce qui est possible de faire pour... le collectif ou soi-même ou... Donc déjà, je trouve ça super important parce que c'est ce qui teinte un peu toutes nos interactions et nos implications dans le collectif et la charge mentale, donc qui est vraiment respectée. Moi par exemple, je suis une personne qui est souvent je disparais je peux vite être dans la fuite ou en retrait et ça m'est jamais reproché, c'est pas quelque chose qui se retrouve dans tous les collectifs. Voilà, je trouvais ça important de dire ça.
Ouais, il y a quand même de la flexibilité par rapport aux besoins de chacun, chacune, et à ses capacités aussi. C'est vrai que j'avais bien envie aussi de vous de parler aussi de votre vie là-bas. Qu'est-ce que vous y faites? Enfin, ça, moi, je me rappelle, j'avais lu un livre sur... Comment c'était? C'était Albert Cosseri ou un truc comme ça, la vallée... des fainéants, la vallée fertile des fainéants ou je sais plus quoi. Et quand justement je cherchais aussi un mode de vie qui soit pas centré autour du travail au sens productif, capitaliste et utilitariste du terme, au service d'un système capitaliste. Et du coup, comment est-ce que vous gérez le travail? C'est quoi le travail, les activités à la Clem? Il y a ce livre de la Bibli qui m'a fait penser aussi à ce que vous y faites. C'est à la recherche de l'écologie temporelle, vivre des temps libérés dans les collectifs néo-paysans autogérés. C'est quoi la néo-paysannerie à la Clem concrètement dans le quotidien?
Je trouve que cette question, elle n'est pas hyper évidente sur qu'est-ce que c'est. Parce que du coup, ça questionne tout notre rapport au travail en général et qu'est-ce que ça devient du coup le travail dans un lieu où on habite, un lieu qui nous fait vivre, un lieu où on fait énormément d'activités mais pour lequel on n'est pas rémunéré du coup. Enfin, aucune de nos activités nous rémunère sur le lieu même. Et tous les sous qu'on fait par le lieu, donc c'est-à-dire quand on va vendre du bois ou quand on va vendre nos confitures de châtaigne, ça revient au lieu et ça ne revient pas à nous. Et du coup, c'est vrai que enfin, on ne peut pas dire qu'on est dans un 35 heures à la clem au sens premier du terme, d'avoir des horaires comme ça très fixes, mais en fait, c'est en termes d'investissement et d'occupation et de charge mentale, ça devient vite beaucoup de taf quand même, quoi. Mais du coup, ça, c'est un taf qui est pluriel, qui a plein de formes différentes et qui peut être moins contraignant aussi que du taf salarié sur certains bouts et qui se mélange à des moments tellement à notre vie privée et personnelle que ça prend aussi d'autres. Enfin, que ça prend une autre implication dans la vie, quoi. Après, tout ce travail-là, c'est la gestion administrative un peu du lieu, organiser de l'accueil pour des personnes, prendre soin du lieu, l'entretenir, faire du potager pour manger. Mais après, on n'est pas investis pareil tous dans les mêmes tâches aussi, quoi. Enfin, on fait pas. On n'a pas tous la tête dans les mêmes paniers, enfin, clairement. Et je trouve ça chouette aussi, d'ailleurs.
Ouais, vous faites attention à la santé mentale et vous faites attention aussi à. Au validisme dans la vision du travail de nos sociétés modernes où chacun, chacune va s'investir aussi comme il le peut et comme elle le peut au moment T. Et du coup, vous pouvez changer de tâche éventuellement, il y a un carnet des charges et vous le partagez.
Ben, on sait qu'on a certaines choses à faire. Et après, ben, c'est qui se sent de faire quelle chose. Et après, c'est des discussions sur qui veut faire quoi. Et à la fin, bah oui, s'il y a une tâche où bah, personne n'est dessus et que personne ne veut la faire, et que bon, bah, soit on fait un compromis et il y a une personne qui se dit « bon, bah, pour cette fois, je le fais vraiment », ou alors on abandonne la tâche. Enfin, il y a aussi ce truc-là de savoir à des moments, se dire que c'est plus important de lâcher certaines tâches que de se forcer à les faire si on ne les sent pas, quoi. Et voilà, du coup, moi, je pense que ça joue aussi sur la pression qu'on peut se mettre dans ce qu'on a à faire.
Et est-ce qu'en termes d'anxiété aussi, ça joue le fait qu'il y a des personnes qui partent du collectif ? Tu disais, Floki, que vous êtes passé de 10 à 7. Est-ce qu'il y a un moment où vous stressez qu'il y ait trop de gens qui partent ou pas assez qui y arrivent et que du coup, ça devienne plus gérable ? C'est quelque chose qui vous angoisse au quotidien ?
Je ne dirais pas que ça nous angoisse particulièrement parce que c'est quand même un lieu qui existe depuis tellement de temps que ça fait une structure solide. Il y a tellement de gens qui passent à la clem que. Après, je pense que c'est hyper important qu'il y ait d'autres personnes qui s'investissent dans les jardins. En tout cas, c'est la recherche en ce moment de personnes investies dans les jardins parce que ça prend beaucoup de temps et beaucoup de place. Et qu'on n'est pas assez à ce que. À deux personnes à porter ça vraiment dans le cœur.
Alors, tout à l'heure, du coup, on parlait du fait que la clem se queerise. Et comment est-ce que vous vivez ça dans le quotidien ? Qu'est-ce que ça a changé pour vous de vivre en communauté, mais au sein de la commu queer, et pas dans des lieux où il y ait trop de monde, qui ne soient pas forcément dans les mêmes valeurs que vous ou quoi ? Qu'est-ce que ça change pour vous concrètement ?
Tout. Absolument tout. Je ne sais pas si on doit refaire un topo sur pourquoi la mixité choisie est nécessaire dans la vie. Mais juste, moi, je me sens tellement en sécurité et tellement en partage d'échanges, de savoir sur les choses. Enfin, je me sens capable de choses comme jamais à la clem. Enfin, vraiment, j'ai appris tellement de choses. Je me sens tellement à l'aise. Enfin, du coup, moi, je mets ça sur le compte de la mixité choisie. Enfin, vraiment, c'est... Pour moi, on appelle ça plutôt majorité choisie parce qu'on a quand même aussi des personnes cis-hétéros qui viennent à la clem, hein, mais qui sont quand même pas majoritaires. Quoi.
Qui sont les nouvelles minorités.
Voilà, c'est ça. Et pour moi, ça change beaucoup. Et après, le fait d'être entre personnes queer, c'est aussi pouvoir au quotidien être avec des personnes qui nous comprennent dans notre intimité. Et juste ce truc-là, c'est tellement confortable, en fait. Enfin, on peut réfléchir ensemble et... Enfin, moi, je trouve ça super, quoi.
Comment ça vous fait grandir, tous les deux ?
Ça m'a mis deux trucs dans la tête. Ce qu'on disait, c'est que... Moi, déjà, je sais que j'aurais pas du tout eu les mêmes temporalités sur ma transition si j'avais pas vécu à la clem. Et que c'était vraiment le fait d'avoir du temps en dehors de la ville et tout, dans un autre rapport au corps qui m'a fait dire, ah oui, en fait, si je peux commencer à prendre des hormones, d'être avec des gens qui le faisaient dans mon quotidien, moi, je trouvais que ça mettait un truc en confiance déjà qui était... Enfin bref, ça m'a fait beaucoup de la confiance. Et moi, je me dis toujours que la mixité choisie, je sais pas du tout si c'est un idéal dans ma vie, genre... Mais et je suis toujours dans ce truc-là de me dire, ah ben en fait, je sais pas si j'aurais absolument envie de vivre avec pas de mec cis hétéro. Il y a plein de potes à moi que je trouve super... Enfin, c'est pas un idéal, mais c'est vrai que dans les faits de ce que, ça, de ce que je vois depuis... De vivre comme ça dans son lieu d'habitation et son lieu de, d'évolution à des moments, etc. Je trouve ça enfin, quand même tellement différent. Ça n'a rien à voir, quoi. Ça, fait va- enfin, ça, ça libère plein d'espace. C'est, j'ai l'impression qu'il y a comme une soupape de tension... qui est là en moins. Et du coup, ça questionne beaucoup en termes de confort et... Enfin bref, je trouve que ça me donne accès à un grand confort sur certains points. Sur d'autres, non. Au plein de niveaux de confort qu'on a en moins de plein d'autres choses. Mais enfin, je dis ça parce que c'est pas un espace très confortable souvent, mais il fait froid. Mais ouais, je sais pas toi.
Toi, Floki, ça t'a libéré aussi?
Bah, moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir à plein de choses. Je suis arrivé là-bas, moi j'avais déjà commencé ma transition et ça a permis... Enfin, j'ai animé beaucoup d'apéro-thé, testostérone du coup. Et enfin, je sais pas, en fait c'est un endroit qui a permis de créer plein de choses. Moi c'est la chose que j'ai voulu créer là-bas parce que c'est ce que je savais. Mais du coup, de tout ce que j'ai vu, de toutes les personnes qui sont passées, tout ce qu'on peut partager... Et pleurer, rire, expérimenter complètement des choses, ça a fait une pression... Enfin, ça n'existe pas, en fait, cette pression, elle n'existe pas. Et où, quand elle est là, on est en force ensemble pour la combattre, quoi. Enfin, ça change vraiment beaucoup de choses. Ça a fait naître plein de personnes en, en transition. Enfin, ça, c'est quand même énorme. Enfin, moi, c'est ce qui m'a... Le... Parce que c'est ce que je faisais, du coup, ça, ça m'a beaucoup, beaucoup touché. Mais de voir tout... Mes amis qui puissent avoir accès à cette connaissance, à ces informations-là et commencer à être autonomes dans leurs injections, par exemple. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'a énormément touchée, quoi.
Et c'est vrai que vous êtes un lieu ressource aussi pour pas mal de copaines, un lieu refuge aussi. Est-ce qu'il y a des copaines, des fois, qui viennent juste prendre refuge à la Clem? Et comment vous les accueillez? Comment vous le vivez, vous? C'est une responsabilité aussi.
Ben, on est un lieu qui permet quand même juste de venir se reposer. Et c'est vrai que souvent, les personnes qui viennent se faire refuge à la Clem, on va leur donner souvent accès à un espace seul. Et puis après, ben, nous, on a tendance aussi à avoir à se soigner les uns les autres, dans le sens où on se donne des temps d'écoute ou de tendresse ou voilà. Où on se fait des petits ateliers d'écriture, j'en sais rien, des choses comme ça. Mais plutôt, c'est des personnes qui vont nous rejoindre et juste venir avec nous, quoi. Et c'est des temps de repos et de parenthèse. Pour les autres, c'est aussi toujours une extraction, souvent, de la ville. Hein. Enfin, on a souvent des potes qui viennent de la ville, mais pas que. Mais... Et du coup, il y a un truc de juste nous rejoindre et redescendre un peu. Enfin, se retourner sur un rythme un peu plus lent et plus calme. Et du coup, ça se met en place tout seul, quoi. Juste la personne s'intègre à notre façon, je pense, de fonctionner, plus ou moins.
Ouais, vous n'êtes pas un lieu d'accueil officiel, institutionnel, formel, mais vous êtes l'HP queer dont tout le monde a besoin, quoi. Non, mais c'est vrai, des fois, on se rend compte à quel point, heureusement que ce genre de lieu existe, parce que ça pallie aussi à un énorme manque, quoi. Et vous êtes quand même pas si loin de la ville et des transports et tout, donc c'est quand même une sacrée chance, quoi, de vous avoir là, proche d'Aubenas. Les copaines, on va finir cette première partie là-dessus. On se retrouve dans une deuxième partie sur la base d'un ouvrage qui parle d'écologie politique et de la protection des minorités vulnérables dans un système patriarcal capitaliste néo-fasciste. Vaste programme. Et on va aussi raconter comment est-ce que vous faites la révolution du soin au sein de la CLEM et au sein de la commu en vivant en communauté. Donc merci à vous pour cette première partie et on se retrouve dans la deuxième. Bisous. Nos santé mentale en lutte. Hello les cœurs, c'est Cal. Petite parenthèse, trigger warning et sensibilisation pour vous rappeler qu'SML, c'est une émission pour libérer la parole sur la santé mentale. On y aborde des sujets sérieux, comme les maladies mentales. Mais chaque chemin vers la guérison est unique, tout comme les besoins des personnes concernées. Ici, on n'est pas là pour juger le chemin emprunté, ni les modalités de soins choisis ou subis. On est là pour s'informer, se culturer et se réconforter, en vous invitant, sans injonction bien sûr, à libérer votre parole aussi, à sortir de l'isolement et vous faire aider pour prendre soin de vous. Mais n'oubliez pas, les numéros d'urgence, si la détresse se fait sentir, il y aura toujours des gens au bout du fil pour répondre à votre appel. Je pense par exemple au numéro national de prévention au suicide, le 3114. Pensez-y, pour vous, pour les autres, ça peut sauver des vies. Trouvez l'entourage qui vous convient. Médical, familial ou amical, mais restez pas seul. On mérite tous d'aller bien.